Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Schmitz. Isabelle Schmitz, bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous faites partie de la rédaction des hors-séries du Figaro et vous êtes venue nous présenter le dernier numéro consacré au peintre Titien, actualité culturelle oblige. Titien, le pouvoir en phase, vous avez repris pour ce numéro hors-série l'intitulé de l'exposition au musée du Luxembourg à Paris, une exposition qui a ouvert ses portes le 13 septembre et qui ne les fermera que le 21 janvier 2007. Alors vous avez vu cette exposition, Isabelle, quelles ont été vos impressions?
Écoutez, j'ai été très agréablement surprise, je l'avoue, parce que quand on connaît un petit peu la diversité de la peinture de Titien, on se dit que simplement une exposition avec des portraits, ça risque d'être très monothématique et très répétitif. Or, je trouve que l'exposition du Luxembourg réussit le pari d'avoir un parcours assez diversifié, avec des changements de ton, de thème, et puis qui, surtout qui rend compte tout de même du talent écrasant de Titien, même si elle ne présente qu'une facette de son talent, puisque on pourrait croire en parcourant cette exposition que Titien ne fut que un portraitiste génial. Mais au moins, elle le montre avec beaucoup de clarté, je trouve.
Je me permets de citer la critique que vous faites de l'exposition. Au XVIe siècle, l'image est l'apanage de l'élite politique, financière, culturelle, qui seule peut s'offrir le service des artistes. Ceux-ci, quel que soit le médium, peinture, sculpture, gravure ou écrit, se font l'instrument du pouvoir en véhiculant son image par l'intermédiaire du portrait, mais par la capacité qu'il a à saisir la sensibilité, l'individualité de son modèle. Loin d'être un simple exécutant, l'artiste est celui qui détient véritablement le pouvoir de la communication. Alors Isabelle, nous avons décidé de consacrer cette petite émission au personnage de Titien. On connaît très bien l'artiste, découvrons un peu le personnage. D'abord ses origines. On associe généralement Titien à Venise, pourtant ce serait une erreur de croire qu'il y est né. Quelles sont, Isabelle, ses origines et surtout comment devient-on peintre, artiste peintre, au début du XVIe siècle?
Alors Titien est à une période phare de la peinture vénitienne et effectivement, il n'y est pas né. C'est à 10 ans qu'il arrive à Venise. Il a passé ses 10 premières années dans les montagnes du Cador, à Pieve di Cadore exactement, sur les premiers contreforts des Dolomites. Il est issu d'une famille de notables. Son père gère des mines et des scieries. Mais lui est totalement attiré par la peinture et par l'art. Et étant donné le tempérament assez hors norme de son fils, le père décide de l'envoyer chez son oncle à Venise pour qu'il découvre cette ville dans toute sa richesse et puisse trouver sa vocation de marchand, de peintre, d'artiste, on ne sait pas encore. Très vite, il travaille pour un maître en mosaïque, puis il passe dans l'atelier de Gentile et puis de Giovanni Bellini, les deux frères Bellini qui étaient à l'époque les monstres sacrés de la peinture vénitienne. Et enfin, il arrive à l'atelier de Giorgione, qui est un jeune artiste un peu plus âgé que lui, et qui le recueille, et qui ne va pas tarder à apprendre à ses dépens que le disciple peut parfois dépasser le maître. C'est en fait la première œuvre dont on a le souvenir de Titien à Venise, c'est une fresque qui s'appelle La Justice, qui est encore visible malheureusement de manière fragmentaire, mais au musée de Cadoro. Et elle représente une femme qui symbolise la justice et de manière armée, avec un message politique très certain. Et alors l'anecdote amusante, c'est qu'en fait, Titien faisait partie de l'atelier de Giorgione et peignait plus ou moins au nom de Giorgione. Ce qui a donné lieu à une confusion fâcheuse pour le maître, c'est que les amis de Giorgione, croyant que c'était de lui, lui ont dit « Ah mais c'est l'œuvre la plus magnifique que tu aies faite, elle écrase tout le reste de ta peinture. »
Et c'était pas de lui.
Forcément, ça n'a pas fait très plaisir à Giorgione, mais ça a été le début de la carrière éclatante de Titien, qui n'a connu finalement aucune zone d'ombre au niveau du succès.
Donc très vite, un génie de la peinture qui s'affirme.
Oui, les critiques de peinture disent tous que le génie de Titien, c'est de savoir non seulement copier les autres, mais les comprendre à leur insu et inventer à partir de ce qu'il a compris de leur peinture. C'est-à-dire qu'il reprend de Bellini la sérénité, la science de la composition, le génie des couleurs. Il reprend de Giorgione une atmosphère de mystère, une suggestion, des ambiances, mais en étant toujours différent. Et c'est en cela, en fait, qu'il est proprement génial, puisque d'un tableau à l'autre, d'une période à l'autre, d'une église à l'autre, à Venise, c'est très frappant, on a l'impression d'avoir quasiment deux peintres différents. Mmh. Le seul point commun, c'est le talent et un génie de la couleur. Mais bon, dire génie de la couleur, on pourrait quasiment dire ça de beaucoup de peintres. Mais chez Titien, c'est très frappant qu'il intègre totalement l'héritage des autres jusqu'en allant en fait débusquer leurs secrets de peinture et en étant encore lui-même différent.
Mmh. Alors tout au long du hors-série, au fil des pages, on découvre le caractère de cet homme, de ce peintre de cour, et j'allais dire quel caractère. Je reprends les titres, l'insolent, était-il opportuniste, était-il arriviste? On voit cette opposition, en tous les cas, cette histoire avec son premier maître. Est-ce que c'est un profiteur?
Effectivement, beaucoup de contemporains ont dit du mal de Titien, mais je n'ai pas la prétention d'avoir compris son caractère, de le connaître très bien, mais dans ce que j'ai pu lire, je crois qu'il avait surtout l'insolence du talent. Oui, effectivement, il était peut-être de l'arrogance que donne le génie et la certitude de savoir qu'il était supérieur aux autres. On a par exemple une anecdote qui est restée fameuse dans les annales de la Sérénissime République de Venise. C'est en 1513, donc ça ne fait même pas 10 ans qu'il est sur la scène vénitienne. Titien écrit au Conseil des 10 qui gouverne Venise pour affirmer son attachement à Venise et réclamer en quelque sorte le titre de peintre officiel de Venise. Il réclame concrètement une pension annuelle, tout en sachant que le seul peintre qui avait droit à cette pension annuelle et qui était le peintre de Venise en titre, c'était Giovanni Bellini, son ancien maître, qui faillit s'étrangler de rage en voyant ça, et surtout, d'autant plus que cela fut accordé à Titien.
Vous écrivez dans les 12 journées de la vie d'un peintre, le prince des peintres, vous présentez ses deux plus chers complices. Ses deux plus chers complices, ce ne sont pas des peintres, ce sont deux personnages, deux civils, d'un côté Sansovino et Laretin. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces personnages?
Oui, effectivement, Sansovino était...
Parce qu'ils sont révélateurs de son caractère, en quelque sorte.
Oui, ils sont révélateurs, je pense, de son talent, de son caractère ouvert, de son grand esprit. Ce n'est pas seulement un peintre, c'est un concepteur génial, pétri d'humanisme. Et Sansovino est un architecte qui arrive de Rome en 1527, la même année que l'Aretin, un intellectuel, écrivain, poète, à la réputation scandaleuse. Mais bon, aujourd'hui, on a le tendance à le réduire à ses sonnets luxurieux qui sont vraiment une petite partie de tout ce qu'il a écrit. Et en fait, on a surnommé le groupe de ses trois amis, le Triumvirat, à Venise, qui fait un petit peu l'actualité intellectuelle, qui débat. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'au même moment où Sansovino construit la Libreria Marciana, pardon pour mon accent, mais la librairie qui est face à la basilique Saint-Marc, au même moment, l'Aretin écrit des sonnets à Charles Quint et à tous les fameux commanditaires pour faire la publicité, en quelque sorte, des tableaux de Titien. Et au même moment, Titien fait le portrait de tous les grands des cours européennes, à commencer par Charles Quint.
Vous écrivez « Il communique par l'image ». C'est un article, un entretien avec Nicolas Spinoza, parce qu'il est seul apte à reproduire l'apparence, mais aussi à révéler l'âme de ses modèles. L'artiste détient le vrai pouvoir, celui de communiquer par l'image. Quelles étaient ses relations avec ses contemporains, ses grands de l'époque?
Mais je pourrais vous parler peut-être plus particulièrement de Charles Quint. Tous ceux
qui
n'est pas le moindre des contemporains. Charles Quint a beaucoup de respect pour Titien. Ce qui est intéressant, c'est que au départ, Titien est assez déçu puisque la commande qu'on lui fait au départ, c'est tout simplement celle de copier le portrait d'un autre, le portrait d'un peintre autrichien qui avait fait le portrait de Charles Quint. Et Titien est déçu, mais se dit bon, qu'à cela ne tienne, je le fais. Mais il le fait tellement bien que son portrait paraît tout autre. C'est un portrait qui est aujourd'hui visible au musée du Prado à Madrid, et on voit non seulement l'or du costume, l'attitude, mais le regard et la psychologie qui sont d'une différence énorme par rapport au premier tableau. Mmh. Et je crois que Charles Quint reconnaît en Titien non seulement l'artiste talentueux, mais aussi l'homme qui comprend peut-être sa psychologie, sa solitude aussi, puisqu'ils sont tous les deux assez isolés. Il y a un mot célèbre de Charles Quint qui est vrai ou pas, ça fait un petit peu partie de la légende dorée, mais on dit que un jour, alors qu'il rentre à l'improviste dans l'atelier de Titien, Titien fait tomber un pinceau et Charles Quint le ramasse en disant « Titien est digne d'être servi par César, car il y a beaucoup de princes, mais il n'y a qu'un seul Titien. » Bon, c'est une anecdote jolie.
Titien devient le peintre officiel de Charles Quint ?
Oui. À tel point même que quand Charles Quint se retire à Yuste et dans un monastère d'Espagne, en Extrémadour, la seule chose de valeur qu'il emporte, c'est le tableau de Titien qu'il lui a commandé, qui s'appelle La Gloire, et qui représente son âme, enfin l'âme de Charles Quint, face à la Sainte Trinité.
Oui, oui. Alors, il y a un autre de ses contemporains qui, lui aussi, est un contemporain de taille, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Michel-Ange. Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à les comparer, les deux ? C'est le thème de tout un article que vous appelez « Le choc des titans ».
Le choc des titans, oui. Effectivement, si... cet article de Patrick de Vézère est intéressant parce qu'il fait comprendre à quel point bon, on peut les comparer, on a tendance à les opposer. En fait, il dit s'il y a un vainqueur dans l'histoire, c'est le talent. C'est-à-dire, en fait, tous les deux excellent dans leur domaine. Et on les compare effectivement parce que ce sont les deux figures grandioses de cette époque-là, même s'il n'y en a pas que deux. C'est une époque tellement riche, ça fait d'ailleurs rêver quand on voit le nombre de génies de la peinture et de la sculpture de ce siècle d'or italien. En fait, oui, on a tendance à les opposer pour la bonne vieille rivalité qu'on resserre à chaque fois, qui est l'école vénitienne privilégie la couleur et l'école romaine, le dessin, ou florentine, le dessin. On dit que Michel-Ange aurait confié à Vasari, du moins Vasari le raconte, qu'après avoir vu le tableau d'Anae de Titien, il lui aurait fait des compliments, mais en sortant, il aurait dit à Vasari, quand même, c'est tellement dommage que ces Vénitiens n'apprennent pas à dessiner. Or, en fait, l'article de Patrick de Besser montre que c'est un peu une fausse opposition, et que de toute façon, dans l'œuvre de Titien, il y a énormément d'hommages rendus à Michel-Ange, de réminiscences, de tableaux dont les formes sculpturales s'approchent vraiment de manière confondante des statues de Michel-Ange, et jusqu'à son dernier tableau, qui est l'ultime Pietà, qui est visible à Venise dans la galerie de l'Académie, Titien fait plusieurs dédicaces très explicites à Michel-Ange. Et notamment le groupe de la Pietà, qui est en fait une réplique dramatique de la première Pietà de Saint-Pierre de Rome.
Alors justement, il y a un personnage important dans la Pietà, c'est la Vierge. L'œuvre du Titien est vaste, et je voudrais précisément m'arrêter à la trilogie que constitue Titien, Venise et la Vierge Marie. Car les trois sujets, Titien, Venise et la Vierge, sont liés.
Effectivement, quand on va à Venise, on peut être frappé par le nombre de tableaux religieux dédiés à la Vierge. Alors, beaucoup des guides et des commentateurs d'histoire de l'art disent « oui, c'est normal, ce sont des commandes, etc. » Mais je crois qu'il y a une explication qui est quand même plus éclairante, qui est que Venise, dans sa naissance même, dans sa constitution comme ville, est liée à la figure de la Vierge. Elle est liée à Vénus, elle sort des eaux miraculeusement, mais également à la Vierge, parce que la légende veut qu'elle sorte des eaux le jour de l'Annonciation. Et que la lagune qui lui constitue une barrière naturelle fait que c'est la ville intacte, la ville vierge par excellence. Et ça, c'est... Bon, quand j'ai entendu cette première explication, je me disais que c'était une idée jolie, intéressante. Simplement, je ne voyais pas de preuves tangibles. Jusqu'à passer, en fait, de l'autre côté du Rialto, en Vaporetto, enfin, de l'autre côté, oui, en venant de Cadoro, et l'endroit où on peut admirer la première fresque de Titien. Et quand on passe de l'autre côté, on voit sur la base du pont de Rialto, d'un côté, un ange qui est à genoux et qui a la main tendue vers quelque chose, et de l'autre côté, sur l'autre rive, une jeune femme à genoux, dans la position de la Sainte Vierge, qui dit « oui ». Et c'est, disons, le premier signe qu'on peut voir et qui est intéressant, qui montre ce lien particulier de Venise avec l'Annonciation. Et quand on fait un petit peu le parcours des œuvres de Titien dans Venise, on se rend compte qu'il a traité de thèmes de la vie de la Vierge à de multiples reprises, et surtout que ce sont ses chefs-d'œuvre les plus éclatants. Je pense notamment à l'Annonciation, qui est à l'église de San Salvador, tout près de Rialto, qui est vraiment un chef-d'œuvre, une scène très particulière, puisque en fait il représente la Vierge au moment de l'incarnation, et que donc l'ange qui la salue n'a pas la main tendue comme d'habitude, mais a les deux mains repliées sur le cœur en signe d'adoration, en fait, pour l'enfant Dieu qui est en Marie à ce moment-là. Et puis il y a un tableau, bien sûr,
L'Assomption.
Très 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 célèbre, c'est l'Assomption de l'église des Frari, qui à l'époque a totalement défrayé la chronique, puisque Titien, bon, y a travaillé très longtemps, avec beaucoup de pression pour finir ce tableau, et le jour où on le dévoile, ça fait un scandale monstrueux, parce que Marie était représentée comme une femme très humaine, avec vraiment avec des formes, des couleurs très vives, le rouge et le bleu, qui symbolisent son humanité et sa virginité et surtout sa naissance sans péché. Et également, ce tableau de l'Assomption reprend la thèse de la dormition de la Vierge, mais de son Assomption au ciel avec son corps. Et c'était au cœur d'un débat théologique très, très animé à l'époque. Et donc, ce tableau, ce qui est amusant, c'est que tout Venise a défilé devant ce tableau en disant, c'était passé dans les gazettes locales, même le scandaleux tableau de Titien, etc. Mais le jour où l'ambassadeur d'Autriche a proposé d'acheter le tableau, là, plus personne à Venise ne voulait le vendre, et c'est devenu le chef-d'œuvre absolu, qu'il est d'ailleurs. C'est très frappant quand on rentre dans cette église, on est complètement happé par ce tableau. Et là, il est proprement révolutionnaire. Je ne sais pas si le terme révolutionnaire est convaincant en critique picturale, mais en tout cas, il est extrêmement novateur. Et là, disons, c'est la confirmation écrasante de la supériorité de Titien sur les autres peintres de Venise.
Nous sommes en 1518. Isabelle Schmitz, merci beaucoup d'être venue nous présenter ce numéro consacré aux Titiens. Je renvoie nos auditeurs non seulement à l'exposition au Palais du Luxembourg, mais également à ce hors-série du Figaro, Titien, le pouvoir en farce. Merci beaucoup.
Merci Christophe.
Et à très bientôt.